Calipige. Ah, c'est ça. Ah, pas du tout.
Est-ce que vous aimez vos fesses?
Pas du tout.
Ah.
Ah ouais, non, pas du tout. Gros complexe.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui, enfin, après 650 émissions à s'arracher les cheveux, regardez ce qu'il en reste, j'ai commencé cette émission en 2022, j'avais une véritable crinière, Roman de Duic à son prime, à décortiquer des mots et des concepts prises de tête comme la post-réalité, le fémo-nationalisme, la polémologie, et même parfois des mots qu'on n'arrivait pas à prononcer.
Et si l'Occident, qui a occidentalisé depuis toujours, tentait de se dessauter.
Enfin, cet après-midi, on va zoomer sur quelque chose de simple, quelque chose de fédérateur, quelque chose de transgénérationnel, le cul. Le derche, le boule, le postérieur, le popotin, aussi appelé la croupe du diable, par Monseigneur le cardinal Bustillo, notre ami commun, avec GC, enfin, Ressé pour les intimes. Alors évidemment, on reste sur France Inter. On va vous parler, on va pas vous parler cul bêtement, on a un standing à maintenir, des thés dans Télérama à défendre. On a donc choisi un mot à trois syllabes un peu intello pour en parler, calipige. Mot splendide dont Cyril Lacarrière, notre non moins splendide rédacteur en chef, va vous révéler l'étymologie dans quelques instants. Un mot qui permet en tout cas d'aborder la fesse par son versant esthétique mais aussi politique. Comment le regard sur notre postérieur a-t-il changé au fil des siècles? Pourquoi ce qui était jadis considéré comme beau, un fessier bien galbé et généreux, est-il ensuite devenu moins désirable avant de revenir à la mode? Qu'est-ce que les différentes révolutions de la fesse nous disent de nos sociétés? Est-ce qu'on ira vraiment au fond du sujet? En disant cela, fais-je vraiment seulement référence à notre sujet?
Non, le rectum.
Oui, je pense que le troisième thé dans Télérama est à portée de main. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour, RL Anna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. RL, vous êtes autrice de bande dessinée et passionnée de sciences humaines. Ce que vous aimez, c'est comprendre comment les histoires individuelles s'inscrivent dans des histoires collectives. Et quoi de plus personnel que ces fesses? C'est l'incroyable histoire sociale des fesses que vous nous racontez dans Derrière, je vais réussir à montrer ce livre à l'antenne, Derrière, une étonnante histoire de fesses, une enquête sur les fondements de nos normes esthétiques qui vient de paraître chez J.C. Lattès, une BD que vous avez écrite et qui est illustrée par Fred Cham. Vous allez donc nous expliquer pourquoi notre regard sur les fesses s'inscrit dans un mouvement politique et social qui court sur plusieurs siècles. Juste le temps de vous présenter ceux qui ont au corps un rapport, on va dire, très décomplexé. A commencer par Manon qui, pour fêter mon retour lundi, après mon petit passage à l'hôpital, s'est dit « Tiens, qu'est-ce qui pourrait redonner le sourire à ce pauvre Mathieu? Je sais qu'il aime les montres, le vin, les livres de Laurent Mauvignier. Ah ben je sais, je vais lui offrir un god en latex. Je vais le coller sur son écran d'ordi, ça sera fun. » Et effectivement, ce fut fun. J'en ris encore, Manon. C'était un beau moment, un beau cadeau.
Il est très beau.
Ah, il est magnifique. Mais il a changé de place maintenant.
Ah, il est pailleté.
Il est violet, pailleté.
Voilà. Un bel objet.
Très bel objet.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une pratique de chirurgie esthétique qui a été popularisée notamment par Kim Kardashian, une pratique populaire mais très dangereuse que beaucoup de femmes regrettent beaucoup après l'avoir faite.
Face à vous, RL, voilà quelqu'un qui, comme sa collègue Manon, ne juge pas. Un être bienveillant, à part quand il est au wagon-bar d'un Ouigo.
Il n'y a jamais... pas de wagon-bar en Ouigo.
Ah oui, pardon, du TGV.
Voilà.
Un être qui jamais ne se permettrait de se moquer du physique de quelqu'un, encore moins du physique d'une invitée, c'est quelque chose qui, en trois saisons, n'est jamais arrivé.
Un mannequin n'était pas super.
Un vrai laidron, comme on dit.
Un mètre cube, j'arrivais même pas.
Quentin, c'est avec cette bonté d'âme que je vous envie.
Mais il y avait une réverbe, on était en train de faire des chansons, c'était pas du tout.
C'est-à-dire que...
On parlait pas d'une invitée.
Non.
Mais vous voyez qui alors?
Marie, on improvisait, voilà, on se stimulait, on chauffait.
Vous êtes allé interroger les gens dans la rue.
J'ai
vu le thème du jour, j'imagine que certains vous ont demandé de vous occuper de vos fesses.
Mais forcément, même si la rue est un lieu de fesses. Et je me suis rendu compte que les gens regardaient les fesses des autres en marchant. Un petit coup d'œil discret, un réflexe primitif.
Tu t'en es rendu compte juste pour le micro-trottoir ou
c'est
tu l'avais
vrai.
Dans ta vie avant, tu l'avais expérimenté?
Non, les femmes regardent les fesses des autres femmes et des hommes aussi.
T'as maté du coup,
ouais. Ben non, vos réponses complètement à la rue, c'est dans la prochaine demi-heure bien
sûr. Vous avez maté?
Je mate pas, moi.
Si, vous matez.
Non.
Tout ça, payé par l'argent public.
Non,
je quand même le rappeler.
Je travaille, nos impôts.
J'enregistre les gens, tous les jours.
D'aucuns disent que cette émission va mal tourner, d'aucuns disent même que... Tout ça n'arrangerait pas nos affaires par rapport à Télérama. Voilà pourquoi on tentera de se ressaisir vers l'ennemi avec le Zoom Zoom Test. Toujours un grand moment de sérieux, consacré aujourd'hui au mode physique et autres canons de beauté les plus surprenants de l'histoire. Juste avant 17h, Lisa Perriot, qui est dans un état quasiment aussi pitoyable que moi, répondra malgré tout à l'appel du direct. Après 17h, vous aimez regarder le foot à la télé, mais vous trouvez que ça devient un peu trop cher. Restez bien avec nous, on reçoit celui qui casse les prix et peut-être le modèle même même de la retransmission télé, le youtubeur Zach Nani qui a acheté les droits de l'équipe de France Espoir. Et si demain c'était sur YouTube qu'on suivait la Ligue 1, on en parle tout à l'heure donc. Mais d'abord, Cyril nous l'a bien fait comprendre en conférence de rédaction, aujourd'hui le programme est clair.
Du cul, des clashs, des pleurs et du cul.
RL Anna, votre livre...
C'est vraiment lui.
Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment... Votre livre commence par cette réflexion. Il est probable qu'en regardant votre derrière dans votre miroir ce matin, vous ne vous soyez pas dit « Ce reflet de mon arrière-train est un petit miracle permis par la société industrielle ». En effet, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert, je ne me suis pas dit ça ce matin, mais pourquoi on devrait avoir cette réflexion en regardant nos fesses ?
Ben, tout simplement parce que pendant la majorité de l'histoire de l'humanité, on n'a pas pu voir ses fesses. Et en fait, moi, ça a été une des premières réalisations que j'ai eues en faisant mes recherches. Et c'est que pour pouvoir rentrer dans l'histoire des représentations du corps, il faut aussi se pencher sur quand est-ce qu'on a vu nos corps et de quelle manière. Et donc ça demande de se plonger dans l'histoire des techniques. Et là, celle
du miroir. Mais avant le miroir, on va développer, mais avant le miroir, on avait bien conscience de ce qu'était la fête, parce qu'on voyait celle des autres, donc on savait qu'on en avait nous aussi, donc on devait bien trouver des moyens pour, dans une vitre, dans un reflet, dans un lac particulièrement
calme. C'est
l'eau,
c'est joli.
Oui, dans l'eau,
oui,
bien sûr.
Oui, en fait, il y a deux moyens qui ont été attestés par les historiens, c'est effectivement dans l'eau, et dans des pierres sombres qui s'appelaient l'obsidienne. Et ensuite, il y a des anciennes civilisations qui ont commencé à faire les premiers petits miroirs en métal, en métal frappé, mais on s'y voyait très mal. Alors déjà,
c'était
ils étaient
flou.
Tout petits, on s'y voyait flou. Et puis
on pouvait croire que c'était bien. Oh, quelle boule, c'est bon.
Ou à l'inverse, complètement déformé, puisqu'en plus c'était souvent concave ou convexe. Donc on voyait avec un énorme pif.
On pouvait avoir des complexes terribles. Des fesses, lui, il en a vu défiler un certain nombre dans sa vie. Certaines lui ont même crié « je t'aime » à des moments où on s'attendait plutôt à ce qu'elle lui dise « aïe ». Une anecdote qu'on découvrira certainement dans son autobiographie « À toutes les fesses que j'ai aimées avant ».
À toutes les filles que j'ai aimées avant.
Oui, filles et même parfois grand-mère, sans faire offense à celle qu'on appelait jadis les Lacarzou, Cyril. Cyril Lacarrière, mon cher Cyril, bonjour.
Bonjour.
Oui, oui, je sais qu'on s'est dit bonjour 17 fois aujourd'hui, puisque nous avons déjeuné ensemble, mais néanmoins, vous savez, c'est...
Oui,
je reste professionnel.
Vas-y.
Racontez-nous ce mot calipige, déjà, d'où ça sort.
Imaginez l'antiquité grecque, les sculpteurs de l'époque obsédés par la perfection des formes, l'harmonie des proportions et bien sûr la beauté des corps nus. Leur modèle parfait a un nom, Aphrodite, déesse de l'amour. C'est de cette vieille histoire que vient notre mot du jour, calipige. Manière de parler de la beauté des fesses sans tomber dans la vulgarité. Car si on utilise calipige aujourd'hui pour désigner une forme particulière esthétique, il est né dans un contexte très précis, celui de la dévotion et de l'humour antique. Décortiquons ce terme grec. Il se compose de deux racines, kalos ou kali, qui signifie beau ou belle, et pige, qui signifie fesse ou derrière. Littéralement, on peut donc dire que le calipige, c'est celui ou celle qui a de belles fesses.
Mais un terme qui va même se retrouver accolé à une statue.
Une statue très célèbre même, l'Aphrodite calipige. Il y en a une au Louvre d'ailleurs, si personne ne l'a piquée entre-temps. Elle représente la déesse Vénus en train de soulever son drap pour regarder par-dessus son épaule et contempler son postérieur. Moins facile que le miroir, évidemment, mais plus sympa pour une représentation en statue et devenir une icône. Le calipige, au départ, c'est comme une ode à la proportion, aux proportions parfaites. Une éloge du galbe, et le terme va vite dépasser le cadre de l'art et du langage savant pour désigner une personne aux formes généreuses et harmonieuses. Alors, d'où ça sort le calipige ? Eh bien, d'une simple statue d'Aphrodite, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors, RL Anna, vous l'évoquiez tout à l'heure, déjà, cette question technique, pour pouvoir voir ses fesses, il faut effectivement un miroir, enfin, pour pouvoir bien les voir en tout cas. Et vous dites que pendant longtemps, on a interdit la possession, voire la fabrication de miroirs.
En tout cas, c'est très fortement déconseillé, notamment par les institutions religieuses, ouais. Parce qu'on y associait des choses qui relevaient un peu du magique, qui étaient associées aux démons, aux autres mondes. En fait, on ne comprenait pas exactement ce que c'était ces reflets. Est-ce que c'était vraiment nous ? Est-ce que c'était un univers parallèle ? Parce qu'en plus, comme il y a une inversion qui s'y passe,
oui.
Et les philosophes grecs, notamment, quand ils se sont penchés là-dessus, ils se sont dit, mais pourquoi on y voit notre image ? Mais par exemple, ça ne reflète pas le son. Ils étaient très perturbés par ça.
Et l'histoire du miroir, elle est importante parce que vous racontez que l'esthétique des fesses dont on va parler aujourd'hui, elle a pris de l'importance à partir de l'apparition du miroir en pied. C'était à quelle époque ça ?
En fait, c'est très récent. C'est vers le 19e siècle. Ah oui. Donc, en fait, alors, un petit peu avant pour les classes sociales supérieures, puisque les miroirs tels qu'on les connaît, les miroirs plats et transparents, ce qu'on appelle miroir cristallin, il est apparu au 17e siècle. Mais il reste très petit pour des raisons techniques pendant assez longtemps, puisqu'à l'époque, on faisait les miroirs avec le soufflage, donc ça ne permettait pas de faire des grands miroirs. Et c'était surtout très très cher, donc réservé notamment au roi. C'est pour ça que, par exemple, la galerie des glaces à Versailles, c'est un énorme truc,
oui,
en fait, à l'époque.
Vraiment... un truc technologique, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'était une débauche de luxe, parce que c'était des mètres carrés de glace à une époque où un mètre carré de glace, ça valait plus que peut-être 10 ans du travail d'un ouvrier, en fait.
D'accord.
Ça veut dire qu'avant ça, avant l'apparition du miroir, personne ne se préoccupait, on va dire, d'avoir de belles fesses ?
Alors, en fait, on retrouve très très peu dans les archives, effectivement, de descriptions esthétiques des fesses. On retrouve des descriptions de fesses, enfin, de dire, par exemple, la fermière fessue, mais les fesses ne sont pas décrites. Et surtout, elles ne sont pas décrites comme quelque chose d'esthétique. Ce qui est décrit comme esthétique, c'est plutôt les parties hautes du corps. Et c'est au 19e siècle qu'on voit apparaître des descriptions esthétiques du bas du corps. Et effectivement, ça correspond au moment où les gens commençaient à voir le bas de leur corps.
Il n'y a pas, un réflexe un peu primitif, animal ? Au fait de regarder les fesses des autres ou de...
Alors, en fait, on ne peut pas dire avec certitude que ce n'était pas une partie qu'on trouvait excitante, et notamment parce que c'était, c'était associé à l'interdit, par exemple. Mais en revanche, ce n'était pas quelque chose qui était décrit comme joli ou esthétique.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Derrière une étonnante histoire de fesses, c'est le titre de la BD de notre invitée RL Anna qui vient de sortir chez JC Lattès, illustrée par Fred Cham. RL, le mot qui nous accompagne cet après-midi, c'est calipige, qui désigne quelqu'un doté de belles fesses. On a parlé de l'époque de l'invention du miroir, du fait qu'il est devenu de plus en plus courant, du fait qu'il est devenu en pied. Quand il a été en pied, on a commencé à se soucier de nos fesses. Vous dites qu'au XVIe siècle, deux modèles de beauté féminine apparaissent. D'un côté, la femme du peuple au corps voluptueux et aux grosses fesses, et de l'autre, la femme du monde, à la silhouette fine et au petit popotin. C'est à cette époque-là qu'on note une distinction qui commence à se faire dans l'esthétique de la fesse.
Alors, en esthétique plus globalement du corps des femmes. Comme je disais auparavant, on a assez peu de traces écrites de quels sont les critères de beauté spécialement du popotin jusqu'au 19e. Mais du coup, j'ai été obligée de faire des hypothèses sur quels étaient les types de popotins. Alors, je ne peux pas dire en termes de forme, mais je peux dire en termes peut-être de corpulence. Et pour ça, je me suis appuyée effectivement sur les travaux de Vigarello, qui a étudié à la fois l'histoire de la silhouette et l'histoire du gras. Et en fait, il a effectivement constaté qu'il y avait un rapport très différent de valorisation du gras dans les classes sociales supérieures et pour les femmes du peuple.
Et alors, mais comment, justement, pour une femme du peuple, être grosse, c'est mal vu, mais pour une femme, pour une aristocrate, c'est mieux ? Enfin, quelle est l'idée ?
Alors, non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'au XVIe siècle, en fait, le gras, il va être plutôt valorisé, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, parce qu'on est encore dans une société de subsistance.
Oui, donc c'est un signe d'opulence.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, exactement.
C'est un signe extérieur de richesse, en fait.
Oui, oui, tout à fait. En fait, à l'époque où la maigreur, ça inspire plutôt des choses comme la famine, voire la maladie ou la mort, on ne trouve pas ça forcément hyper sexy. Et à partir du moment où on commence à rentrer un peu plus dans une économie d'abondance, dans ce cas-là, on constate qu'il y a toujours une valorisation des corps gras qui sont associés aux corps plutôt populaires. Mais en revanche, chez les femmes des classes sociales supérieures, on commence à valoriser plutôt la contention du corps. Et en fait, ça montre qu'on n'a plus besoin de montrer qu'on est gros et qu'on peut manger. Au contraire, maintenant, on est tellement dans l'aisance que, on peut remettre ça plus tard.
Est-ce que, justement, c'est à cette époque, à la Renaissance, que la beauté devient uniquement féminine et où les expressions « sexe fort » et « beau sexe » apparaissent ? Pourquoi c'est pour vous un moment de bascule ?
Alors, c'est surtout pour l'historienne Eliane Viennot qui décrit ça. Et moi, c'était une très grande surprise pour moi. Je pensais vraiment que le fait que la beauté soit l'apanage féminin, enfin, moi, on m'avait un peu ancré le fait que c'était comme ça depuis la nuit des temps. De découvrir que, par exemple, au Moyen-Âge, la beauté, c'était pas forcément très valorisé, ni pour les hommes, ni pour les femmes. C'était une assez grande surprise pour moi. Et c'est vraiment, effectivement, au XVIe siècle qu'il y a une bascule sur ça. Et ce que remarque Eliane Viennot, c'est que c'est un moment où il y a une période de recul du droit des femmes, où notamment elles perdent le droit de faire pas mal de métiers, notamment de métiers valorisés. Il y a aussi une explosion de la prostitution. Elles perdent le droit de se transmettre la couronne. Et au même moment, on commence à avoir une division très genrée où la beauté est spécifiquement associée au corps féminin. Et on se dit, ah mais finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Est-ce qu'on a un rapport différent à la beauté des fesses des femmes et des fesses des hommes ?
On a un rapport différent à la beauté des femmes et des hommes.
Mais alors sur les fesses
sur les fesses comme sur le reste du corps, effectivement.
Est-ce qu'on peut, parce que j'ai l'impression, moi, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on a très longtemps accepté, en tout cas l'esthétique, des fesses plutôt plantureuses et tout ça, que c'était associé à une forme de beauté. Vous dites que les médias, le cinéma et la publicité se mettent à critiquer le gras féminin, voire à l'associer à des pathologies. Est-ce qu'on peut dire que c'est surtout le XXe siècle, finalement, qui a stigmatisé le gras?
Ah mais totalement, c'est fin 19e et 20e.
C'est là le tournant.
Oui, c'est là. Il y a notamment un changement de perception du gras qui se fait à cette période-là, et où en fait le gras, il commence à être vraiment mesuré. Enfin, le 19e siècle, c'est le siècle de la mesure, on commence à tout décompter, et il y a aussi un changement de la visualisation des corps, c'est-à-dire qu'on passe de un rapport au corps où on parle en termes d'humeur, c'est la médecine de Galien, en fait, et après, on évolue vers un rapport au corps où on parle de combustion, et on commence à compter les calories.
Ah, voilà.
Et en fait, on voit le corps comme une machine. Et en fait, c'est une machine, si la combustion ne se fait pas, c'est pour ça qu'on commence à accumuler du gras. Enfin, c'est ça l'imaginaire.
C'est toute cette vision qui préside en fait à notre esthétique actuelle. C'est...
Oui. Et en fait, ça coïncide aussi avec la montée d'un corps qu'on veut de plus en plus productif et efficace
ouais.
Avec la montée du capitalisme.
Et vous, quel regard portez-vous sur vos fesses, celles des autres? C'est la question pas du tout intrusive qu'est allé vous poser Quentin, notre Jean-Yves Lafesse, à nous.
Oui, mais ça ne me fait pas peur. Je marche dans la rue, un lieu où effectivement plusieurs centaines de millions de fesses en France se côtoient chaque jour. Commençons par ces deux amies. L'une à vélo, l'autre juste à côté, en train de parler des fêtes de Noël qui approchent. Véro et sa copine découvrent...
C'est une Vénus Callipyge. C'est une femme assez enrobée, qui est très féminine, très plantureuse, non?
Elles ont la ref. Je leur demande quel pouvoir ont les fesses.
Attractif. Ouais. Séduisant.
Pourquoi les fesses, c'est un sujet... Ah, vous êtes morte de rire.
Ah oui, je suis morte de rire. Moi, elles servent à s'asseoir aussi. Hein.
Est-ce que vous regardez les fesses des hommes?
En général, certaines peuvent être vraiment bien formées, bien rondes. Ouais. Et souvent, il y a beaucoup d'hommes qui ont de très belles fesses, je trouve.
Eh ben oui, dans la rue, c'est ça aussi. On passe à Victoire maintenant, jeune maman dynamique. Connaît-elle...
Callipyge.
Est-ce que vous aimez vos fesses?
Pas du tout.
Ah.
Ah ouais, non, pas du tout. Gros complexe.
Alors ça, c'est intéressant. Et c'est bien qu'on ait quelqu'un qui nous en parle. Pourquoi elle est complexe?
Ah, parce qu'elle pourrait être bien mieux. Elles sont un peu molles et un peu de cellulite. Voilà, quoi. J'ai eu deux enfants aussi. Donc c'est vrai que j'accepte aussi qu'elles soient moins parfaites. C'est encore... Faut encore que je grandisse, que je m'assume, que je... Mais il faudrait que je m'enlève des réseaux aussi. Mais... Bah oui, on suit des jolies filles. Ouais, non.
C'est les fesses de qui, vos fesses de rêve?
Kendall Jenner, elle est pas mal, quand même. Mais je les aurais jamais. Sauf si je vais faire faire.
Les fesses de Kendall font rêver ou complexer, visiblement. Dans certains esprits, elles peuvent prendre un peu de place, les fesses de Kendall. Tiens, arrêtons cette bande en vadrouille.
Bonjour,
bonjour monsieur.
Quels sont les prénoms?
Paul.
Victor.
Alexis.
Vous avez quel âge tous là?
16 ans.
Est-ce qu'ils connaissent le mot du jour de Zoom Zoom Zen?
Callipyge, c'est pas les crustacés, ça? Non.
Il y a de belles fesses. Oh, oh. Ah bah en plus, ah. Je suis grec, donc du grec.
Écoutez, moi, je suis très callipyge. Hein.
Est-ce qu'à 16 ans, on regarde les fesses?
Bah, même avant, franchement. Non, mais franchement, c'est normal, c'est les hormones.
C'est les hormones.
Ce n'est pas sale.
Et d'ailleurs, ce lycéen me confie ce qu'on pourrait nommer sa première histoire de fesses.
Non, c'est terrible. Ah si, je sais exactement.
Vas-y, bah il sait.
Si, c'était les fesses d'une très jolie fille, une danseuse de foulard au Maroc. Parce que mes parents m'avaient emmené en voyage au Maroc. J'avais vu une danseuse de foulard qui avait des très jolies fesses en l'occurrence. Et mon père, j'avais quoi, 7 ans je pense, et mon père m'avait dit...
Il avait dit les hormones à 13 ans.
Mon père s'est bien moqué de moi et je pense que c'est la première fois que j'ai découvert les fesses, quoi.
À 7 ans, et je souris en pensant à ce témoignage, quand je tombe sur cette jeune femme qui marche avec un joli bouquet de fleurs à la main.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Je m'appelle Anne.
Et vous allez donner des fleurs à qui?
C'est très triste.
Ah,
je vais ramener ça au cimetière demain.
Je suis désolé.
Pas de souci.
Voilà, bon, j'essaie de rattraper. Vous êtes gênée, Manon.
Content.
Oui, bah, j'essaie de rattraper la situation. Voilà, en lui parlant de notre mot du jour, callipyge.
Ok. Non, je connaissais pas du tout.
Ça vient d'où? On fait un sujet sur les fesses. Est-ce que vous aimez vos fesses?
Bien sûr. Bien sûr, à 100%.
C'est vrai?
Elles sont naturelles.
Vous avez raison de le préciser parce qu'on est dans une époque où.
Il y a beaucoup de chirurgie par rapport à ça, piqûres, etc. Mais moi, j'ai la chance de les avoir naturellement. On m'a des fois demandé si elles étaient fausses.
Ça vous gêne? Ça vous flatte?
Bah, ça me flatte. Ça me gêne pas. C'est derrière.
C'est derrière. Ma dernière rencontre, c'est cet homme. Plutôt bel homme d'ailleurs, mais disons, déjà d'une certaine expérience. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Christophe.
Christophe, vous avez quel âge ?
Christophe, alors mon âge officiel ou réel ?
Oh, Christophe, il va nous faire la totale. Sacré Christophe. Allez, dernière réaction sur...
Ah, quelle pige ! On voit bien sûr de belles fesses. Mais là, vous parlez à un mec qui aime bien les nanas. Donc, quelle pige, oui, je connais.
Pourquoi ?
Je vais vous dire, parce que pour moi, c'est la 8e merveille du monde. Il n'y a pas plus beau qu'une belle femme, qu'une belle nana. On n'inventera jamais plus beau que ça. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus émouvant chez une femme. Je pense, hein. Moi, des belles fesses, ça me bouleverse totalement.
Vous me faites penser à Jean-Pierre Marie.
Ben c'est marrant parce qu'on me l'a déjà dit ça. Ben voilà, les galettes de Pont-Aven, Jean-Pierre Marielle, en état d'apoplexie devant des belles fesses. Ça passera où là, ce que je vous dis ? Parce que pour savoir où je suis cramé dans les 5 prochaines années.
Ah ben ouais, au moins 5 ans. Et au fond, tout ça raconte peut-être la même chose. Une vie entière passée à détourner les yeux, puis à les ramener là, à vouloir comprendre, admirer, fantasmer, comme si... De l'enfance à l'âge mûr, une partie des hommes n'avait jamais vraiment cessé d'essayer de jouer à ce jeu de dupes qui est de vouloir voir sous les jupes des filles. Toujours cité, Souchon.
Souchon, toujours en vie, rappelons-le, à Manon.
À Manon, oui.
RL Anna, qu'est-ce que vous pensez de ces quelques témoignages ? À partir de quel moment ça peut devenir une obsession, les fesses ?
Ce que j'ai pensé sur les témoignages, c'est déjà, on remarque qu'il y a des femmes qui disent qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des belles fesses. Et je trouve ça assez marquant de se dire ça, parce qu'effectivement, bah, les hommes, on ne leur a pas appris à être dégoûtés de leurs propres fesses, contrairement aux femmes. Puisque, en fait, les femmes, elles sont 90% d'entre elles à avoir de la cellulite. Et on leur a appris, depuis leur enfance, que c'était moche, en fait. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile de trouver les fesses d'hommes jolie.
Ça peut commencer à quel âge cette obsession pour les fesses ? Cet ado nous raconte une anecdote quand même à 7 ans où il tombe sur les premières fesses qui le marquent. Enfant, on a un truc sur les fesses ?
Alors là, vous m'en demandez trop, je ne sais pas.
Mais ça peut commencer jeune, visiblement.
Je ne sais pas, je pense que c'est un âge où on découvre effectivement les corps, où on commence à regarder les corps, et peut-être il y a un développement de la sexualité peut-être précoce chez certaines personnes à ce moment-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont amplifié le regard que l'on porte sur nos fesses ? C'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes, surtout, qui se prennent en photo, qui font des avant-après sur leur postérieur, ou qui se prennent en photo dans des miroirs, justement. C'est vrai que les fesses sont quand même omniprésentes sur les réseaux.
Oui, tout à fait. On vit de plus en plus dans une civilisation de l'image. Et en fait, les réseaux sociaux, ils arrivent à la suite d'une longue série d'évolutions technologiques qui met l'image de plus en plus au centre de notre vie, de notre quotidien. Ça commence par le miroir. Ensuite, il y a eu la photo, le cinéma, la vidéo. Et les réseaux sociaux, ça arrive après tout ça. Et effectivement, avec chaque nouvelle évolution technique, évolution technologique, on est de plus en plus confronté à nos corps et aussi à des corps qui sont de moins en moins réalistes. C'est-à-dire qu'avec cette évolution technologique, il y a eu aussi de plus en plus de transformations, parce que dans la technique, il y a aussi l'invention des filtres, des retouches Photoshop, de la chirurgie esthétique, et on est confronté à ces corps irréalistes qui ont un impact très direct sur notre perception de nous-mêmes.
Kendall Jenner, elle a un beau fessier pour vous ?
Oui, bah oui, très clairement.
Et pourtant, ce n'est pas un corps irréalisable ou fantasmé. C'est plutôt une paire de fesses normale ?
Alors, c'est une grande question. Qu'est-ce que c'est justement la norme ?
C'est pas la norme. Des fesses plates, mais...
C'est quelque chose dont je parle assez longuement dans l'album, de qu'est-ce que ça veut dire des fesses normales ?
Et quelle est la réponse ?
La réponse, c'est déjà qu'il y a une polysémie sur le mot normal, puisque ça a été pointé par le philosophe Georges Canguilhem. En fait, lui, il pointe le fait qu'on devrait avoir deux mots. On devrait parler d'un côté d'anomalité, pour parler d'une exception statistique, et de l'autre côté d'anormalité, pour parler de une norme morale. Ce qu'on dit, qui est souvent quand on dit le mot « ah, c'est normal » ou « c'est pas normal », il y a une confusion entre ces deux sens.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il est probable que les anthropologues du futur, analysant les commentaires en dessous des vidéos YouTube de Manon Mariani, se posent la question. Pourquoi, plutôt que de rebondir sur ses propos, ses analyses journalistiques, tant d'internautes se focalisaient-ils sur sa raie? Le mouvement est parfait, l'ondulation nickel, du beau travail, ou encore « Marianoche, j'adore ta raie, tu m'enverrais un gros plan en DM ?» Que se passait-il donc dans la tête des gens en 2025? Le fétichisme capillaire était-il monnaie courante dans cette première moitié du XXIe siècle? Oui, les questions seront nombreuses, car chaque époque est surprise et parfois choquée des canons de beauté du temps jadis. Jouons. Et non pas Zouon. Au Zoom Zoom Test.
Zoucon.
Beaucoup, il y a trop de zad dans cette émission, ah ça
oui,
bien
sûr, ouais.
Évidemment.
Peut-être un peu trop de vin ce midi aussi.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, bah, parlez pour vous, mon petit Quentin. J'ai été très raisonnable. À la découverte donc de ces modes qui aujourd'hui nous paraissent incongrues et qui pourtant paraissaient aller de soi à leurs contemporains. Tout d'abord, direction le 15e siècle, grâce aux archives des moines trappistes de Pontaucombo, nous connaissons les exploits d'Albéric de la Carrière, dit la Barrique, qui terrassa la terrifiante bête de la Brie. Un exploit relativisé plus tard par les historiens qui ont découvert qu'il s'agissait seulement d'un furet. Albéric, dont l'épouse Mélusine, respectait évidemment les canons de beauté de l'époque qui consistaient à se couper les lobes d'oreilles pour avoir l'air plus riche, se laisser pousser le front pour avoir l'air plus intelligent,
quoi,
ou se laisser grossir pour inspirer l'envie à ces messieurs qui à l'époque adoraient les femmes bien girondes.
C'est B, c'est peut-être. Le front, non ?
Oui, bien sûr.
B,
alors.
B ? Moi j'ai dit B.
Vous êtes mise à... Oui, non, toi tu as dit B, c'est le point.
Moi j'ai dit C.
Va
hein.
À notre invité, ah, c'est RL c'est qui marque le point. Elle s'invite dans le Zoom Test, elle a le droit, c'est le droit le plus strict de l'invité de participer. Un point pour RL. Oui, B, et je vous vois venir, je sens que vous allez me demander comment on fait pour se laisser pousser le front comme si j'étais un spécialiste. C'est dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec mon tout petit, très léger début de calvitie. Non, au Moyen-Âge, pour se faire pousser le front, c'est très simple. On épilait cils et sourcils, on rasait les cheveux au sommet du front, on tirait tout ça en arrière, et là. Et pourtant, deux siècles plus tard, au 17e, si vous me suivez, la mode revient fort sur le sourcil que l'on redessine alors et on accentue selon une méthode bien particulière qui, j'en suis sûr, sera bientôt de retour dans les tutos beauté TikTok. D'après vous, Manon, Quentin, RL, quelle est la méthode en vogue au 17e siècle? Le tatouage de sourcil au jus de raisin? Les sourcils cousus de fil de soie ou les extensions en peau de souris?
C'est non, B. Non, remarque. Non,
ah, attention, moi je vais dire
c'est. On aurait dit des conneries dans cette émission.
Ouais, moi j'ai dit c'est. Avant, non, t'avais dit c'est avant.
Les extensions dessus. En peau de souris?
Bah oui, parce que on va pas se coudre un truc.
Donc on parle d'extension en peau de souris, c'est une bonne réponse de Quentin.
J'ai dit.
Ah non, vous êtes revenu et tout. Ah non, non, là je demande à...
En régie...
Tout le monde m'arnaque
en régie,
aujourd'hui.
Le point est accordé.
Oui,
encore.
Oui, enfin,
désolé,
en régie, bon,
désolé,
voilà, ils sont pas très
sobres. Vous savez que je suis de votre côté, mais...
Ils sont pas très sobres.
Non, ils sont pas très sobres, ça, vous avez raison.
D'ailleurs, ils dorment.
Réponsez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voyez Quentin, si un jour vous écrasez un mulot ou une souris avec vos grosses paraboutes, récupérez le petit cadavre encore chaud, pelez-le et offrez sa petite fourrure à Manon qui sera ravie de se faire un regard de braise. Alors le problème de ce regard, c'est son odeur parce que la peau de souris après quelques jours, hein. Oui, bon goûter bien sûr. Mais au XVIIe siècle, n'allez pas croire que c'est sur les seules damoiselles que pesait la charge de séduction. Oh que non. Pour respecter les canons de beauté masculine, les hommes devaient avoir le mollet ferme et bien dessiné. Or, pour avoir le mollet ferme, rien de mieux que... Porter des cuissardes couleur chair, comme Koura dans Soirée Chemsex. Se bander les mollets dès l'enfance pour qu'ils soient symétriques et parfaitement dessinés, douloureux mais efficaces. Ou porter des bas fourrés au liège et à la ouate, pratique et pas cher.
B, ah. B,
C,
C,
C.
Oui, mais je crois que RL a été plus rapide que vous.
Ah ben non.
C'est la réponse, c'est si. L'invité a été plus rapide.
Elle me donne le point.
Une info qui me permet de relativiser mon malheur, moi qui me coltine une botte de marche de 3 kilos.
Ah
au
oui.
XVIIe siècle, les damoiseaux rembourraient leurs bas de liège ou de ouate pour galber leurs mollets, une pratique impossible, hélas pour Courade, qui, toujours à rebours de son époque, porte encore des slims en 2025. Enfin, c'est la seule personne qui fait ça encore. Enfin, pour terminer, nous allons parler d'un accessoire utilisé depuis le 15e siècle et remis au goût du jour par Skims, la marque de Kim Kardashian, dont Quentin est client privilège.
Ah oui.
Il s'agit du merkin, qu'on pourrait qualifier par substitut de toison, si vous écoutez France Culture, ou perruque de chatte, si vous écoutez Fun Radio. Mais la question est, à quoi pouvait bien servir ce merkin au 15e siècle, où on n'avait hélas pas encore inventé la chaîne Body Minute? Ça servait à... simuler la nudité pour les acteurs de théâtre, à cacher une maladie honteuse, ou assortir son bouche à sa perruque.
B,
à la
les, trois.
Du roi.
Les trois.
B,
les trois.
B.
Oui, mais vous répétez comme un petit perroquet servile ce que dit notre invité, Quentin. Je ne sais pas si
tout.
Je peux vous accorder.
C'est vrai,
parce que RL, et tout en élégance, en distinction, elle dit poliment B à ses...
Je quitte ce studio, ça va.
Non,
c'est bon, je peux plus.
On arrête tout.
Je peux même plus jouer.
La porte là-bas.
Le point va à notre invité qui écrase le quiz de son talent. Effectivement, Quentin, vous n'avez rien remarqué de particulier de votre déniaisement dans le Renault Master de Martine. Quelle cachotière. Le traitement de la syphilis faisant tomber les poils, les marchandes d'amour avaient coutume de dissimuler leur maladie avec des postiches. Et oui, Martine, mais l'illusion est parfaite. Florence Dumalac, actuellement en congé pour un gros rhume, te le confirmera. Vive le naturel et victoire de RL Anna, notre invitée qui remporte le quiz.
Et on embrasse Florence.
Évidemment, Florence.
Vous avez remporté votre livre.
Elle va beaucoup mieux. Elle remporte son propre livre. C'est ça, la générosité du service public. Derrière une étonnante histoire de fesses, c'est la BD passionnante d'RL Anna qui est avec nous cet après-midi. Une BD où vous parlez, alors là, j'étais stupéfait, de l'invention de la cellulite. C'est une invention, la cellulite ?
Alors le mot il apparaît pour la première fois en 1873 dans un dictionnaire médical, mais à l'époque il désigne pas du tout ce qu'il désigne aujourd'hui, ça veut dire une inflammation des cellules. Il commence à s'associer à une maladie du gras dans les années 20-30, mais à l'époque il y a des grands débats entre médecins européens, principalement français, qui c'est une maladie à la mode, qui devient à la mode, et il lui associe tout un tas d'emplacements et de causes totalement différents. Et quand je dis tout un tas d'emplacements, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la cellulite, ça a été associé aux chevilles. Et puis ensuite, à la nuque. La cellulite de la nuque, c'est le titre d'un livre qui est sorti dans les années 30-40.
Mais ça ressemblait à la cellulite telle qu'on la visualise,
En fait, c'était une espèce de bosse de gras que certaines personnes peuvent avoir en bas de la nuque quand elles vieillissent, par exemple. Et en fait, c'était ça qu'on appelait la cellulite. Et il y avait une fixette là-dessus. Et c'est seulement dans les années 40 que c'en est venu à être associé à ce qu'on veut dire aujourd'hui par le mot cellulite, c'est-à-dire les petites bosses et les petits creux sur les fesses et les cuisses des femmes, surtout quand on les pense.
Mais ça, c'est parce qu'en fait, au fil des siècles, on va toujours plus dans le détail de nos corps. Parce que pendant des siècles et des siècles, on ne s'est pas soucié de ces petites imperfections. Enfin, tout le monde en avait, donc personne ne se posait la question, en fait.
Mais ce n'était même pas considéré comme une imperfection. C'était considéré comme faisant partie du corps. Et surtout, comme étant une caractéristique du corps féminin, ce qui est totalement vrai.
Parce que 95% des femmes ont de la cellulite et on a réussi quand même à les faire culpabiliser avec ça.
Oui.
Comment ?
En fait, c'est une vraie campagne médiatique qui a commencé donc dans les années 40. C'est-à-dire que ça faisait déjà un petit moment, depuis quelques dizaines d'années, qu'on prenait la tête aux femmes avec le mot cellulite, même si ça désignait des choses assez fluctuantes. Ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que la cellulite, elle a changé d'endroit selon les médecins et les magazines féminins qui relayaient leurs paroles, on constate qu'il y a un changement très direct de perception des femmes de leur corps. On le voit par les lettres qu'elles envoyaient aux magazines. Et dans lesquelles elles disent « j'ai de la cellulite des chevilles, j'ai de la cellulite de la nuque, et à partir des années 40, j'ai de la cellulite des cuisses ». Et en fait, il y avait donc les médecins qui ont commencé à vraiment insister sur la cellulite des cuisses et des fesses. Ça a été relayé principalement par les magazines de beauté, beaucoup en France, avec les magazines notamment Marie-Claire et Votre Beauté qui n'existent plus. Et en fait, c'est que dans les années 70 qu'on a exporté ça dans le monde entier. Et c'est-à-dire que jusque dans les années 70, les femmes aimer leurs fesses avec de la cellulite dans le monde entier. Et puis, c'est vraiment les Français, on a fait ce cadeau au monde.
On en revient au capitalisme. C'est le capitalisme qui a créé un nouveau
besoin. Oui, parce que après, c'est devenu un business, en fait, la cellulite.
Ça l'a été dès le départ. Et d'ailleurs, dès le départ, il y a des remèdes extrêmement farfelus qui sont proposés à la cellulite avec des espèces de trucs vibrants, alors qu'il n'y a même pas trop d'électricité. Mais pour ça, on en a trouvé. Des savons iodés, des cures de la gymnastique, des régimes complètement absurdes.
Enfin, il y a encore ça aujourd'hui. Hein.
Oui, tout à fait. Mais j'étais surprise de découvrir que ça n'a pas beaucoup évolué depuis les années 40, en fait.
Vous dites que cette histoire de la cellulite s'inscrit dans une longue tradition de pathologisation du corps des femmes dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? C'est lié au patriarcat. On prend le contrôle, quelque part, du corps des femmes en leur inventant des pathologies.
Oui, alors c'est des théories qui ont été développées notamment par les philosophes Bordeaux et Bartsky. Elles expliquent que pendant en fait très longtemps, le contrôle des corps des femmes, il venait plutôt de l'extérieur. Les injonctions, elles étaient plutôt externes. C'est-à-dire que il y avait le mari ou le prêtre qui allait dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et une des caractéristiques des sociétés modernes, c'est le fait que on va faire diffuser des messages qui ont pour but l'intériorisation des injonctions et des contraintes. Et en fait, une très bonne méthode pour faire ça, c'est de pathologiser le corps. De dire votre corps, il est malade, votre corps, il n'est pas normal. Et à partir de là, on va donner la charge individuelle aux femmes de dire, il va falloir faire tout un travail pour rendre votre corps normal.
Néanmoins, encore aujourd'hui, c'est le regard de l'homme qui dicte un peu la forme des fesses des femmes. Avant, c'était des fesses plutôt plus petites, après rebondies. Ça revient à la mode, ça bouge. C'est les hommes qui dictent ça ?
Je dirais que c'est plutôt le patriarcat. Ouais. Et en fait, nous, en tant que femmes, on est aussi porteuses de ces injonctions-là. Mmh. Et puis justement, on les a très intégrées. C'est-à-dire que nous, souvent, je pense que les critères de beauté qu'on pense spontanés ou naturels, même en tant que femmes, même pour nous-mêmes, la manière dont on voit notre corps et le corps des autres femmes, on pense que ça peut être issu de nos goûts. Est-ce que c'est quelque chose de spontané ou d'individuel ? Et moi, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a intéressée dans le fait d'étudier les fesses. C'est que moi-même, j'ai remarqué que mon propre regard sur mon propre corps, il a changé. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais être complexée par l'idée d'avoir des fesses trop grosses. Mmh. Et 20 ans plus tard, alors que mon corps n'a pas foncièrement changé, maintenant, je complexe sur le fait d'avoir des fesses trop plates ou trop petites. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout isolée, que c'était un mouvement qui se retranscrivait dans l'ensemble de la société. Et c'est là où ça m'intéressait. Je me suis dit, mais moi, cette évolution de mon complexe qui est individuelle, en fait, elle n'est pas que individuelle. Et c'est ça que j'ai eu envie d'explorer.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Toujours ces magnifiques jingles de Noël. Oui. C'est la magie de Noël qui
avec
est déjà
les petites
là.
Cloches,
vous la sentez cette
après-midi
sur France Inter.
On dirait Maria Carré, vous savez, la célèbre chanson.
Maria Carré, ouais. Ah bah, Cyril est très ému à chaque fois qu'il entend les clochettes en régie. Oui. La pièce jointe de Manon Mariani.
Trois lettres aujourd'hui, B, B, L, trois lettres pour définir une silhouette devenue une icône mondiale, taille très fine, hanche large et surtout des fesses très très, très bombé. BBL signifie Brazilian Butt Lift, le lifting brésilien des fesses, une opération de chirurgie esthétique. Le chirurgien commence par faire une liposuction, puis il injecte la graisse qu'il a prise dans les fesses de la personne. Résultat, un fessier rebondi à la Kim Kardashian, celle qui a notamment popularisé cette pratique dans le monde entier. Le BBL porte ce nom car le Brésil a longtemps été associé, du moins dans l'imaginaire collectif et dans l'histoire de la chirurgie esthétique, à une culture des courbes et à des techniques pionnière. Mais contrairement à ce que l'on croit souvent, le BBL n'a pas un inventeur unique. C'est une pratique qui s'est construite progressivement dans plusieurs pays. D'ailleurs, les Brésiliens ne parlent pas du tout de cette invention comme d'un BBL. La vraie explosion du BBL vient, on l'a dit, en grande partie des stars et des réseaux sociaux. Kim Kardashian donc et ses sœurs en ont fait leur marque de fabrique en France. Il a été pratiqué par énormément de stars de télé-réalité comme Maëva Guénam ou Jessica Thivenin, suivi par des millions de personnes. Forcément, ça a inspiré des jeunes filles du monde entier qui ont voulu à leur tour avoir un fessier proéminent. Résultat, la popularité de cette chirurgie esthétique a augmenté très rapidement au cours de la dernière décennie avec des dizaines de milliers de procédures enregistrées chaque année et une progression nette de la demande mondiale. Plus de 600 000 BBL ont été réalisés dans le monde en 2024 selon les statistiques nationales de la chirurgie esthétique. Sauf que derrière l'aspect physique, il y a une réalité médicale beaucoup plus lourde car le BBL est considéré comme l'une des chirurgies esthétiques les plus risquées au monde, du fait notamment du risque d'embolie graisseuse, une complication très grave qui peut survenir quand de la graisse injectée pénètre dans la circulation sanguine et bloque les vaisseaux vitaux. C'est ce qui était arrivé à la candidate des Marseillais, Luna Sky, qui a eu de graves complications médicales après un BBL raté. Elle a fait énormément de prévention ensuite sur ses réseaux pour inciter ses abonnés à ne pas faire la même erreur qu'elle et surtout à bien se renseigner sur les chirurgiens qui pratiquent ce genre d'opération. Depuis quelques temps, on fait d'ailleurs face à l'effet inverse. Des femmes se font maintenant retirer la graisse qu'elles se sont fait injecter pour retrouver leur courbe naturelle.
Merci Manon. Et Relana, vous dites que le BBL, c'est une résultante du rap devenu mainstream ?
Oui, c'est une chercheuse qui s'appelle Janelle Hobson qui a étudié, en fait, elle s'est posée la même question que je me suis posée, c'est-à-dire pourquoi il y a eu une revalorisation des fesses plus charnues les 20 dernières années. Et elle, une de ses hypothèses, c'est notamment le rôle du regard des hommes noirs dans la pop culture. Elle remarque que dès les années 80-90, il y a en fait des hommes, des rappeurs, des hommes dans le hip-hop qui vont commencer à dire « mais moi, en fait, les corps que je trouve beaux, les corps qui m'attirent, c'est pas forcément uniquement les corps blancs qui sont représentés dans la pop culture sur MTV, etc. Ils vont commencer à mettre ça en valeur. Et en fait, le rap et le hip-hop sont devenus de plus en plus mainstream. Et avec ça, ces critères de beauté plus diversifiés sont rentrés aussi dans la culture mainstream.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
De là où il vient, Lourdes, la fesse est un sujet tabou. Son proviseur, à Notre-Dame de Bétaram, l'abbé Chibrard, l'avait d'ailleurs mis en garde le jour où il l'avait surpris dans le presbytère à consulter un exemplaire du calendrier des dieux du stade. Attention, Courade, votre goût pour la fesse finira par vous détourner des évangiles. Il avait vu juste. Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur les calipiges en une minute chrono.
Quel visionnaire cet abbé Chibrard, hein. Aujourd'hui, je ne veux pas faire mon professeur Roland, mais on est tombé dans la caricature de Zoom Zoom Zen, à savoir trouver un mot compliqué pour ne pas utiliser un terme facile à comprendre, comme quand on a parlé de pet parenting pour ne pas dire ces personnes qui n'ont pas trouvé l'amour et qui préfèrent dormir avec leur chien.
Oh non, on embrasse les
aujourd'hui bientôt. Donc, calipige ou belle fesse. On était avec Erel Anna, auteur de bande dessinée, passionnée par la petite histoire du quotidien qui rencontre la grande. Et son dernier album sur les fesses à travers l'histoire est vraiment passionnant. Grâce à elle, on a appris que jusqu'à une période très récente, on n'avait même pas conscience de nos fesses. Rien ne nous permettait de les voir avant l'invention du miroir à pied et sa généralisation au 19e siècle. Avoir de belles fesses, comme avoir un beau visage, devient alors une marque esthétique, mais les goûts n'ont pas toujours été les mêmes. Pendant très longtemps, une silhouette généreuse était signe de richesse, à une période où les privations étaient courantes, mais à partir de la fin du 19e siècle, avec l'invention du capitalisme, il a fallu présenter un corps productif, athlétique, efficace. La science et la pub ont accentué cette recherche du corps et par extension des fesses fermes, qu'on peut judicieusement mettre en valeur dans un jean slim, je vous mets comme ça. En tout cas, dès le début du 20e siècle, hein, ce sont les femmes qui font l'objet de toutes les campagnes de désinformation sur la cellulite. Désinformation, comme le rappelle notre invité, plus de 90% des femmes ont de la cellulite, c'est donc commun. En fait, l'histoire des fesses, c'est l'histoire d'un regard essentiellement masculin.
Merci Pierre, vivant avec vous là. La vengeance est un plat qui se mange chaud.
Oui, bah, il paraît aussi que courade en grec ne veut pas dire ce que vous avez dit
non,
tout à l'heure.
Non, ça veut dire bravoure.
Bravoure.
Pas du tout,
ouais.
Merci, Manon. C'est votre
ami. Et non pas bravoure.
Vous soutient, mais...
Pardon.
J'invite les internautes à aller voir ce que ça veut dire. Ce petit résumé fort bien fait, c'était gratuit, c'était Pierre Courade. Le livre, lui, c'est 24,90€. Derrière, une étonnante histoire des fesses, et c'est chez J.C. Lattès. Et pour continuer de parler du derrière des femmes, nous recevons Sexo Vince, coach en séduction, qui, je cite, en connaît un rayon sur les gonzesses.
Ah, tout à fait, Mathieu, merci de parler comme ça, merci beaucoup. Je connais très bien les femmes, j'ai vécu moi-même 27 ans avec l'une d'entre elles. Bisous maman. Il était temps que je revienne ici, parce que là, je vois que vous avez des invités, c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Je pense bien sûr à madame à côté de moi, qui a sûrement un prénom d'ailleurs. Madame qui écrit un livre pour parler des fesses des femmes. Donc, pardon, hein, mais pour parler des fesses des femmes, c'est quand même les hommes qui sont les mieux placés. Hein, c'est nous qui les voyons en premier quand on est derrière elle à la salle de sport. Donc, chacun son rayon de compétences. Voilà, nous, on va pas faire des livres de cuisine. Pareil. Donc, j'ai pas lu votre BD, madame, et donc j'ai demandé à TopGPT de me faire un résumé.
Vous parlez de ChatGPT ?
Non, TopGPT, Mathieu. Ah. Parce que ChatGPT, il y a chat, et ça veut dire que c'est un signe qu'on est manipulé par les lobbies féministes. C'est très grave. Donc, moi, en fait, j'ai créé mon IA viril de l'appli. Donc, d'ailleurs, pour déverrouiller l'appli, il faut mettre son engin devant la caméra. Des fois, il faut zoomer, ça dépend, on est en hiver, bref. Et donc, je résume, donc vous dites notre vision des femmes, des fesses ont évolué avec les époques, les critères de beauté sont le fruit du patati patata, ça se veut intelligent, donc déjà ça fatigue tout le monde.
Et vous n'aimez pas les femmes intelligentes peut-être ?
Non, si, bien sûr, une femme intelligente c'est important pour pouvoir calculer le dosage précis des protéines dans le shaker du matin. Voilà, c'est pas compliqué. Après, quand c'est trop intelligent, ça fatigue tout le monde, évidemment. Regardez, les émissions de radio, on est obligé d'inviter des humoristes, sinon on s'emmerde. Et puis surtout, là, en lisant votre livre, qu'est-ce qui va se passer ? Les femmes, elles vont s'accepter comme elles sont, elles vont aimer leur corps, et ça, c'est dangereux, c'est très grave ce que vous dites, vous êtes une grande malade.
C'est plutôt une bonne chose si les femmes s'assument.
C'est une plaisanterie, Mathieu ? Attendez, mais ça, si les femmes s'acceptent avec leurs défauts, là, c'est finito, terminado. Ça veut dire plus d'efforts, plus de régime, plus de vélo dans les piscines avec du David Guetta. Et là, c'est toute une économie qui s'effondre, d'accord ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des pubs partout, pour faire complexer les femmes et leur rappeler comment elles doivent être foutues, sinon c'est nous qui sommes foutus, voilà. Et après, on se retrouve avec des copines qui font du... Au lieu de faire du 36, on se retrouve à aller acheter des leggings pour cacher leur sac de bourrelet. Il y en a certaines, on ne sait plus si c'est un cul ou un pain surprise de chez Picard. Bon, j'ai eu la réduction, pourtant, j'ai pas eu la réduction alors que j'ai la carte. On se pose des questions, vous voyez. Alors heureusement, moi je vais vous dire, il y a des hommes comme moi qui sont là pour rétablir la vérité. Donc moi, je sors mon nouveau livre que je vous présente tout de suite. Reste fine si tu veux te faire soulever. On n'est pas tous brutiers. Voilà, ça sort demain chez France Inter. Voilà, aux éditions France Inter. C'est la préface.
C'est le pluralisme. Hein,
la préface est signée par Louis Sarko. Bisous Loulou si tu nous écoutes. Et non seulement les femmes, elles prennent plus soin d'elles, mais elles nous mentent. Ça, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que hier soir, moi, j'étais en Tinder, un date Tinder avec une miss. Voilà, je m'intéresse, je suis mignon. Je lui dis, tu as des parents? Je pose des questions. Tu veux une salade? Est-ce que tu veux reprendre un dessert? T'es sûr? Arrête avec la sauce, lâche ton pain. Bref, attentionné, quoi. Je la ramène chez moi, on passe aux choses sérieuses. Donc je parle de sexe, hein, je précise parce qu'il y a beaucoup de gens mariés ici. Elle se déshabille et là j'ai très vite compris qu'en fait il y avait erreur sur la marchandise. Donc moi en fait, je vais vous le dire, je me suis dévouée, j'ai fait mon devoir, mais c'est très grave ce qui se passe. Parce que là je pense à tous les autres soldats qui tombent en combat et ça il faut en parler. Donc heureusement aujourd'hui il y a des hommes, notamment sur Facebook, qui sont là pour dire la vérité aux femmes, les remettre en place dès qu'elles postent un truc, parce que c'est vrai que si on les insulte pas, elles prennent trop la confiance. Alors moi je vous le dis, comme je le répète dans tous mes cours en ligne, rabaissons les femmes. Pour rester au niveau.
Ça se tient. Merci Sexovine, surtout merci Lisa Perry. On vous retrouve dès demain pour le Zoom Zoom Zen spécial Noël que la France attend fébrilement. C'est vous serez en duo avec Jessé ou Ressé, wow. Selon. Ah, oui. Et vous reprenez en tout cas votre spectacle à partir du 6 février à Paris, les mercredis à la Nouvelle Scène. Dans quel état, on ne sait pas, mais vous reprendrez en tout cas. Merci Elena d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Derrière, une étonnante histoire des fesses. Je n'ai plus le temps pour annoncer la suite, oui, de l'émission, mais ce qui est sûr, c'est que Zoom Zoom revient juste après, oui, 17h comme d'habitude.
Zoom Zoom Zen.